Bonjour, merci pour vos interventions respectives. Ma question s'adresse à Florence Éloi. Vous avez à un moment fait référence au fait que parmi les modes de distinction sociale utilisés par les jeunes enquêtés, il y avait le fait de faire référence à des sources non mainstream pour découvrir du rap, mais aussi de faire référence à des catégories un peu savantes pour décrire ses rappeurs préférés. Est-ce qu'on pourra en savoir plus sur les sources qui sont citées par les enquêtés, ainsi que les catégories qui sont mobilisées ? Merci.
Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Du coup, j'avais une question pour Pauline. En fait, il y a un fait qui m'interpelle depuis longtemps, c'est le public dans les concerts de Kazé, que de manière beaucoup plus marquée que dans des concerts d'autres artistes qu'on pourrait mettre plus ou moins dans la même famille artistique, et de manière vraiment marquée, blanche, assez mixte dans le genre, et enfin en tout cas à Rennes je vois comme ça, et puis plus ou moins proche justement des mouvements antifascistes ou féministes. Et du coup, j'aurais voulu savoir si c'était apparu dans ta recherche et qu'est-ce que ça disait aussi justement de ces mouvements-là, etc. Enfin, vraiment tout ce que tu aurais pu avoir là-dessus éventuellement.
Bonjour. Ma question sera plutôt pour Monsieur François De Brune, peut-être aussi pour Florence Éloi. Ça concerne plutôt la popularité de la musique hip-hop et de la musique rap. Comme vous l'avez dit, c'est une musique qui est très appréciée, on va dire, dans le monde. Mais c'est aussi une musique qui souffre d'un certain déficit de légitimité, notamment dans l'espace public ou dans l'espace médiatique, à la télé par exemple. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Enfin, est-ce que vous êtes d'accord et comment vous l'expliquez ? Merci.
Merci à vous quatre pour vos présentations tout à fait intéressantes. J'ai une question pour François De Bruyne. En fait, je viens de Lille aussi et les situations que vous avez décrites, je les ai aussi vécues, donc ça m'a rappelé un peu le lycée et c'était vraiment cool. Et c'est vrai que ces dernières années, J'ai beaucoup moins vu dans les transports publics des gens qui mettaient leur musique à fond, etc. Et est-ce qu'on peut expliquer ça partiellement par le fait qu'aujourd'hui, le rap peut toucher vraiment quasiment tous les publics ? C'est-à-dire qu'on peut tous y trouver sa tasse de thé de Nekfeu à Booba, à PNL, Jules, etc. Et donc que les jeunes de banlieue s'approprie le rap de moindre manière, en fait. Est-ce qu'on peut expliquer ça, ce phénomène, par ce postulat ? Et en partant de ça, bon, pour partir un peu en vrille, est-ce qu'on peut dire que l'association rap et banlieue est vouée à disparaître un jour ?
Alors, je ne suis pas sûre d'avoir exactement compris la question, si c'était par rapport au public de Kazé. Enfin, du coup, je vais parler plutôt des... j'avais observé un concert de Kazé, je vais parler aussi en général des concerts militants et qui sont du coup dans le milieu militant et qui réunissent effectivement un public qui est très majoritairement masculin et majoritairement blanc. Et ce qui, en fait, moi, m'a fait me poser énormément de questions. Et en plus, en ayant fait passer des questionnaires devant les concerts, je me suis aussi rendu compte que... pour un autre concert dit conscient et rattaché plutôt au milieu militant. Enfin, disons que les artistes étaient valorisés par les acteurs du milieu militant. En faisant passer aussi des questionnaires, je me suis rendu compte qu'il y avait une surreprésentation des classes moyennes et supérieures. Et du coup, là, j'avoue, je suis un peu stressée, donc je ne sais pas si je vais vraiment arriver à tirer les fils vraiment de tout ça et que ça soit très, très logique, mais en tout cas... c'était quelque chose que j'avais vraiment noté sur mon terrain, qu'il y avait un public qui était assez spécifique au rap dit conscient. Même, enfin, moi, j'aime pas forcément trop ce terme parce que ça sous-entendrait qu'il y a du rap inconscient, mais si on reste sur les termes en tout cas associés à un milieu militant, on retrouve un public qui est très spécifique et qui serait plutôt blanc masculin de classe moyenne et un peu supérieure, quoi. Voilà. Mais je sais pas. Enfin, je suis un peu trop stressée, au pire on en reparle tout à l'heure, quoi. Je serais en désolée.
Je vais commencer par la question sur l'écoute dans le métro et puis ensuite je répondrai à la question de la popularité pour laisser Florence aussi répondre sur ce point puisque la question était posée à nous deux. On a bien vécu ou vu la même chose. Je pense pas que la question de... Bon, en plus, j'ai du mal à être sur un mode explicatif. Hein. Les raisons sont... Enfin, j'ai toujours du mal à être sur ce registre-là d'interprétation de ce que je vois. Mais quitte à en chercher, j'ai l'impression que c'est plutôt du côté de la question de, des modalités de confiance et d'interaction dans l'espace public, en particulier dans le métro, qui est un espace qui concentre hein, à la fois tout le travail qu'on fait pour ne pas se frotter les uns aux autres, pour ne pas se regarder... et qui montre bien du social, et en même temps, cette proximité, elle n'est pas facile. Et il me semble qu'il y a quelque chose comme le fait que des jeunes gens, en l'occurrence plutôt des jeunes garçons, qui savent qu'ils peuvent être vus comme jeunes de banlieue, et j'ajouterais jeunes arabes de banlieue, en fait, beaucoup aujourd'hui. Quand je dis qu'ils se savent, c'est pas qu'ils se le disent, hein, que les choses soient claires, qu'ils se savent, c'est un savoir tacite. Enfin, j'ai plutôt l'impression que du coup, ils sont plus ou moins obligés, dans l'état actuel du manque global de confiance dans nos interactions dans l'espace public, de surjouer de la discrétion, de surjouer le regard bienveillant. C'est là qu'on n'est plus. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de précautions. Avec le fait d'avoir des attitudes qui pourraient être lues comme incivil, qui pourraient être lues comme provocatrices, ça n'empêche pas hein, qu'il y ait des attitudes provocatrices. On pourrait dire que symétriquement, les attitudes provocatrices sont encore peut-être encore plus radicales qu'avant, mais avec quelque chose comme cette manque de confiance. Alors pour le coup, il y a une forme de catégorisation pratique ethnique pour les gens de ma génération qui est assez difficile à vivre parce qu'on a vécu dans un monde où on ne se regardait pas toujours à partir de nos appartenances ethniques on est dans un monde où on se regarde de plus en plus comme ça. Alors là, excusez-moi, du coup je suis sur un juste un peu plus personnel et générationnel, mais et il me semble que ça s'est encore accentué et que c'est plutôt la question de la confiance et du fait d'apparaître comme jeune arabe qui fait qu'il y a tout un tas de tactiques d'esquive pour être de plus en plus discret et tout faire pour ne pas apparaître comme étant un civil. Ce qui veut donc dire aussi, mais ça pour le coup c'est documenté depuis longtemps et c'est pas d'aujourd'hui, qui a à voir avec la baisse de la tolérance continue à l'égard des expérimentations adolescentes dans l'espace public. Alors, et ça, pour le coup, quand on fait des terrains ailleurs, dans des pays méditerranéens, en Afrique de l'Ouest, ça nous saute aux yeux, le fait qu'ici, on a de moins en moins de tolérance par rapport à ces expérimentations adolescentes, on va dire, hein, qui sont, on pourrait dire, le lot normal de toute socialisation qui consiste à s'émanciper progressivement pour devenir adulte. Hein. Sur la question de la popularité... je ne sais pas s'il y a un déficit de légitimité dans l'espace médiatique. Je n'ai pas personnellement travaillé sur le discours médiatique, donc ce serait malvenu de ma part, je laisserai les gens qui l'ont fait nous dire des choses. Je pense qu'on aura des communications là-dessus, donc je ne sais pas s'il y a un souci de légitimité dans l'espace médiatique. Une popularité, c'est... Alors, comment dire ça ? J'ai l'impression, et c'est là peut-être la catégorie de Florence tout à l'heure, goût dégoût. Autant pour d'autres genres musicaux, je trouve que la dialectique goût dégoût n'a pas de sens. C'est-à-dire soit on a un goût pour une musique, soit on n'en a pas, mais c'est pas du dégoût. Hein ? C'est-à-dire on n'écoute pas de jazz ou on n'écoute pas de rock, so what ? Hein ? D'accord ? Alors que pour le rap, il me semble qu'il y avait quelque chose qui était un peu transversal dans nos communications. En fait, ça n'est jamais anodin. Ça n'est pas perçu comme étant... complètement anodin. Alors je pense qu'il y a plein de cas où c'est anodin, mais il y a quand même c'est un genre musical qui a un potentiel à ne pas être perçu comme étant anodin. Et effectivement, à susciter du dégoût, des préfigurations médiatiques qui font que, alors ça, le travail de Karim Amou, le travail d'Anthony Péqueux l'ont bien montré, qui réduisent largement ce qu'est le rap à jeunes de banlieue avec des textes qui parlent de la vraie réalité de la rue. Enfin voilà, et les rappeurs eux-mêmes, hein, dans les débats qui ont encore cours aujourd'hui parfois, et qui finissent par être absurdes sur l'authenticité hein, du rap dans ce rapport à la rue. C'est vrai que ça. Quelque part, là, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est contre-intuitif pour moi. J'avais plutôt à être sur le registre de... Bah, c'est bon, quoi, c'est le mainstream d'aujourd'hui, au bon sens du terme. Hein, au bon sens du terme. Et en fait, bah non, c'est pas tout à fait le mainstream d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est assez clivant, hein, pour reprendre un terme qui était utilisé parfois.
Donc pour répondre aux questions qui m'ont été posées, d'abord concernant effectivement les sources et les modes de catégorisation qui peuvent être mobilisés dans des types de rapports au rap esthétisants. Là, concernant les sources, il s'agit de la presse spécialisée, par exemple, ou encore de la presse qui va être considérée pour, comme de la presse un peu intello, en tout cas du point de vue d'un adolescent de 17 ans. Donc ça peut être, par exemple, les Inrock. Ça va être ce type de sources-là. Et puis, concernant les catégorisations, en fait, ce sont des modes de catégorisation qui ne vont pas tellement désigner les aspects fonctionnels de la musique, comme par exemple, je ne sais pas, du rap qui bouge, ou encore des aspects éthiques du rap, par exemple un rap authentique ou un rap vrai, mais qui vont plus s'attacher à des éléments qui vont renvoyer plus à par exemple, l'histoire du genre. Donc ça va être, par exemple, faire référence à l'origine géographique de tel ou tel rappeur. Ça va être ce type de catégorisation en fait, qui renvoie davantage à l'histoire de la catégorie musicale. Ensuite, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit sur le fait que avec le rap, on est à la fois devant un genre musical très, très, très populaire, dans le sens largement répandu, mais qui pourtant semble toujours mal perçu. Ce que je trouve là, ce que je peux répondre par rapport à la cohorte qui est suivie par l'enquête L'enfance des loisirs, c'est qu'on voit que c'est assez intéressant, puisque pendant la période du collège, finalement, c'est plus de la moitié des adolescents qui vont citer ce genre parmi leurs genres préférés. Et puis, on voit qu'à partir du moment où, finalement, c'est les adolescents rentrent au lycée, il y a une popularisation dans le sens un recrutement plus populaire de ce genre musical. Et donc, à ce moment-là, c'est comme s'il devenait plus clivant. Donc on voit qu'il y a une évolution aussi en fonction de l'âge, mais pour le coup, une grande partie, pas tous, mais une grande partie des enquêtés là, de l'enfance des loisirs, ils auront quand même, à un moment donné, écouté du rap, mais pour s'en détacher pour une partie d'entre eux ensuite. Ce qu'on peut dire aussi, j'ai pas du tout présenté ces données, mais si vous regardez les données de l'enquête pratique culturelle des Français là, qui porte sur les Français de plus de 15 ans, en fait, Olivier Donat, il y fait quelque chose d'assez intéressant, qui est d'interroger les dégoûts en fait, des enquêtés. Et là, en fait, les deux genres qui sont les plus détestés, c'est le métal, le hard rock métal, et puis le rap. Donc alors le hard rock metal, autant il est assez marginal dans les goûts, autant le rap, il est aussi en même temps assez fréquemment cité parmi les goûts. Donc c'est intéressant parce que c'est à la fois un genre qui est présent, mais à la fois un genre qui est très clivant, comme on le disait tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est une situation, je pense, assez particulière pour ce genre musical d'être à la fois très diffusé et garder cet aspect clivant, et qui est lié aussi au fait qu'il reste associé au populaire, aux catégories sociales populaires et puis au masculin, ce qui contribue à lui donner ce caractère clivant.
Merci. On va peut-être prendre encore une ou deux questions, et en privilégiant les questions pour la quatrième intervention qui est celle de Jean Evenson-Lizer, si on a encore le temps vraiment pour une ou deux questions, et malheureusement on devra arrêter.
Alors, déjà, merci à vous quatre pour vos interventions qui étaient lumineuses. Et oui, pour Jean Evenson-Lizer, j'ai une question par rapport au feeling. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un lien avec la notion d'auteur-interprète? Je sais qu'elle est très chère à Anthony Pequeux, cette notion qui est très liée au rap. Le rap a systématiquement un auteur-interprète, ou quasi systématiquement, les ghostwriters sont très rares. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça qui fait qu'on a un fort attachement, une forte identification peut-être au rappeur, parce que le rappeur, il écrit ses textes et l'interprète est peut-être plus vivant et plus vrai, parce que c'est aussi l'auteur. Voilà.
Bonjour. Il a été question tout à l'heure avec Sorata Fernandez de la manière dont les rappeurs américains pouvaient arriver à Cuba, donc dans les Caraïbes en général, j'imagine, et avoir des comportements relativement dominants. Le morceau que vous avez passé au début de votre présentation était en créole haïtien, si je ne me trompe pas. Je voulais vous demander quel rôle le créole a joué dans le développement du hip-hop dans les années 90 à Haïti.
Alors, et je voudrais commencer par proposer un élément de réponse par rapport à la première question. Je pense qu'effectivement, il y a un lien entre la notion de auteur-interprète d'Anthony Baker. Peut-être que je n'ai pas eu le temps de tout citer, mais effectivement, il y a ce lien entre cette notion et la notion de feeling. Parce que le feeling, ce que j'appelle le feeling, on peut essayer de, à partir des modalités d'expression de la part de ceux qui s'expriment, on peut essayer de l'identifier soit chez un amateur de rap non pratiquant, soit chez un rappeur pratiquant, un rappeur qu'on pourrait qualifier de professionnel. C'est-à-dire que le rappeur qui s'exprime, qui se met en scène, qui s'exerce au rap, il a quand même ce sentiment de plaisir et éprouvé par ce qu'il fait. Donc c'est vraiment un feeling pour soi, un feeling du côté de celui qui présente quelque chose qui va faire écho chez celui qui l'écoute. Donc c'est à la fois en ce sens que je pourrais dire que c'est un feeling partagé, parce que bien que cette notion de feeling comporte une forte dimension de subjectivité, mais c'est à la fois vécu par le rappeur qui s'exprime, par le rappeur pratiquant et le fan du rap, le fan qui reçoit le rap, qui prend plaisir à écouter du rap. Donc, pour la deuxième question, je peux dire que le créole a joué un rôle important dans le développement du rap, parce qu'au début, on peut constater, si l'on essaie d'écouter les premiers morceaux de rap, on peut constater une certaine tendance des rappeurs à chanter en anglais. Et à ce moment-là, cette tendance-là ne correspond pas tout à fait à la période vraiment d'expansion du rap. Alors, les rappeurs pratiquants, les plus connus, ont vite compris la nécessité de pratiquer une musique qui soit dans une langue nationale, le créole qui est une langue qui est parlée par tous les Haïtiens pratiquement. Donc ils ont compris cette nécessité de s'exprimer en créole, de chanter en créole. Et hélas, cela a provoqué un déclic. Et cela a provoqué un déclic en ce sens que il y a eu vraiment un enthousiasme qu'on peut constater à partir des années 80, du milieu des années 90, chez les récepteurs du rap, chez les fans du rap. Et c'est à cette période-là que correspond la montée du thème qu'on appelle le rap créole. Si dans un premier temps, un temps d'essai, et on ne parlait pas, on avait tendance à chanter en anglais, mais au milieu des années 90, il y avait la montée de ce qu'on appelle le rap créole, et à ce moment-là, il y a vraiment la généralisation de ce. Et je pense que oui, effectivement, il y a eu l'usage de la langue créole qui a vraiment été pour beaucoup dans la propagation, dans l'expansion du rap en Haïti. Et à l'heure actuelle, ces rappeurs se réclament d'un rap haïtien, certains parlent de rap créole, un rap qui prend en compte la réalité haïtienne, les diverses facettes de la réalité haïtienne, et un rap qui vraiment chante ce que vivent un ensemble des franges importantes des populations et pauvres et des grandes villes, et ce que ces populations-là vivent quotidiennement. Donc on peut parler vraiment, on peut essayer, il pourrait être intéressant d'essayer de faire un travail systématique de réflexion sur cet aspect-là.
Merci à vous tous pour votre attention et vos questions. On a une petite pause avant la projection qui sera bien à 18h comme prévu. Très bien. Merci à vous.